Alors, nous sommes donc dans Parshat Terumah, Pasuk Kaf Gimel, pas au début, mais Pasuk Kaf Gimel, chapitre, toujours chapitre 25, Pasuk 23. Vasita Shulchan Atzei Shittim, tu fabriqueras une table. Atzei, de bois, Shittim. Shittim, c'est cèdre. Ça, c'est la grande question, c'est quoi le mot Shittim exactement? Shittim vient du mot choté. Choté veut dire idiot, de bois de l'idiot. Ça veut dire quoi ça? Ça représente quoi, le shulchan? C'est un objet de sainteté. Évidemment, ça doit représenter un homme. C'est une espèce de serviteur de Dieu. Chaque objet de culte au Beth Amikdash, au Mishkan, représente une façon de servir Hachem. Et les dimensions et la matière et la fonction de chaque ustensile correspond à une façon comment il faut servir Hachem. Donc il faudra comprendre le sens. Il faudra comprendre le sens de chaque détail pour en avoir une indication de quelle façon il faut servir Hachem. Donc quand on dit tu fais une table de bois, de shittim, et shittim veut dire bêtise, comme pour dire que l'homme qui représente ici la table doit avoir quelque chose de fou en lui. Comme si la folie fait partie de la matière du serviteur de Dieu. La folie, à quoi ça sert la folie? Normalement, la folie, c'est pas bon. La folie, c'est le contraire de la sagesse. La folie, ça fait partie de ceux, les pêcheurs, ils ont la folie. Un homme ne pêche que s'il y a un esprit de folie qui rentre dans lui, il est choté, c'est un transgresseur de la Torah. Et ici, Ruach Shetut, oui, un esprit de folie. Et ici, on nous parle du bois de Shittim pour représenter un objet de grande kedusha. Donc le shtout peut servir. Ça veut dire quoi le shtout? Ça veut dire hors norme. Shtout, ça veut dire ça correspond pas aux règles de jeu qui tient dans tout le système. La folie en dehors du système.
Quand quelqu'un devient religion, on dit il devient un petit peu fou celui-là.
Ah. Parce que chez les voyous, le religieux est un fou. La majorité du monde traite les gens normaux des fous, parce que tout est relatif. C'est-à-dire pour les pécheurs, comme dit la Mishnah dans Maseret Sota, « Sur meira mishtolel ». Rashi explique là-bas, avant que Mashiach y vienne, « Sur meira », ceux qui se séparent du mal, « mishtolel », il est vu comme un fou aux yeux des pécheurs. Les pécheurs croient que les religieux sont fous. Ça a été toujours comme ça, hein? Et c'est aujourd'hui aussi comme ça. Aujourd'hui, les juifs pas religieux ou des goyim, ils croient que les juifs sont fous. Parce qu'ils croient que notre religion, c'est une folie. Ils croient qu'on a inventé une religion et on suit un bourrage de crâne. Alors donc, c'est du bois. Et atzei, c'est bien la chanson etz. Etz, c'est conseil. Un conseil de folie. Donc pour s'approcher vers Dieu, il y a une espèce de conseil de folie dedans. On s'arrache du monde entre guillemets qui est normal. Et shulchan, ça vient de quel mot shulchan? Sholeach, envoyé. Alors pourquoi une table? La racine du mot table, c'est sholeach, envoyé. Une table, il envoie une table. Normalement, c'est quelque chose qu'on pose dessus. On pose des choses dessus. Qu'est-ce qu'on pose? Normalement, la nourriture. Shulchan, en premier lieu, shulchan, c'est pour mettre la nourriture. Et la nourriture a comme accomplissement de quoi nourrir la personne. Envoyer de la nourriture dans le corps. Et aussi la nourriture, c'est quelque chose qui est envoyé du ciel. On envoie du ciel. C'est envoyé. Shulchan, tu fabriques Shulchan, une espèce de mission à Shaliach. Shaliach, c'est un quelqu'un qui a une mission de conseil de folie. C'est le serviteur qui a une mission de conseil de folie. En quoi c'est une folie, la table?
La table, c'est quelque chose qu'on pose juste dessus, donc c'est plutôt l'humilité, non? C'est pas l'humilité. Non. Si on compare ça avec les actions qu'on doit avoir envers Hachem.
On va voir. Amataim orko, deux amot longueur, deux coudées longueur, va amarochbo, une ama largeur. Va amavacheitsi komato, une et demi coudée la hauteur. Vetsipita oto zahav tahor, tu vas le couvrir avec de l'or pur. La table, il est couvert par de l'or pur. Ça ressemble fortement à Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh aussi, on avait dit qu'il est fait de bois, de cèdre, et couvert de l'intérieur, de l'extérieur, de l'or. Et ici aussi, il est couvert de l'or. Va sitalo, tu lui fabriques zeir, une couronne, zahav, en or, ça vive autour. Donc c'est la deuxième couronne. Déjà l'Aaron HaKodesh, on avait vu qu'il y a une couronne. Ici c'est la deuxième couronne. La couronne, c'est la royauté. La première royauté, c'est la Torah. La Torah règne. Et la table, c'est le symbole, qu'est-ce qu'il dit Rashi, de la richesse. Et la richesse est aussi roi. Les gens qui ont de l'argent, le pouvoir, Rashi dit, Zer Zav Siman le Keter Malchut, c'est le signe de la couronne de la royauté. Shulchan Shem, Shem Osher Ugdulale. Shulchan représente la richesse et le pouvoir politique. Comme Shomrim, Shulchan Melachim, la table des rois. Donc la table représente la richesse et le pouvoir. La table des rois. Donc où toutes les bonnes choses se trouvent dedans. Et ça a une couronne, parce que ceux qui ont de l'argent, ils règnent sur les autres. La Torah, les sages règnent, et l'argent règne. C'est un deuxième pouvoir, un contre-pouvoir. Donc aussi un zer, zahav, ça vive autour. Autour, tout autour de la table, il y a une couronne. Ça représente quoi? Autour de la table.
Une barrière.
Vous avez ici la photo, comment elle est là. Donc ça, c'est la table. C'est oui. Ici le zer.
Ah, la couronne, elle est juste là?
Oui.
Ah non, elle est là, dans la première étagère.
La couronne.
Première étagère et première couronne.
Oui, non, tout autour.
Ouais, tout autour.
Tu as une bordure.
Ouais,
c'est une bordure.
Voilà. Comme le haron est pareil.
L'haron aussi, il a autour
comme
un zer.
Comme le haron, qui a une couronne autour.
Et juste au-dessus des barres, hein, pareil.
Oui, c'est une forte similitude. Ça ressemble à un crénage, des créneaux tout autour, comme ça.
Le Beth Amidash, est-ce que le Beth Amidash, il y a des couronnes? Parce qu'on voit, on le représente, je vois souvent, quand on présente les photos de Beth Amidash, on voit tout autour une petite couronne comme ça.
Donc, sur le toit du Beth Amidash, il y avait Kalei Orev, un chasse corbeau, c'est autre chose. Il y avait des pics sur
d'accord.
Le toit pour que les corbeaux ne posent pas.
D'accord,
ne
se posent
pas. Va asitalo misgeret. Et tu fais pour la table une misgeret. C'est quoi misgeret? Rachidi Gedan fait, il y a deux avis. C'est quelque chose qui, on peut poser quelque chose dessus. Non, ce qui tient les étagères.
Les montants.
Quelque chose sur laquelle on va poser les étagères. Vous allez faire misgeret, un cadre. Aujourd'hui traduit misgeret, un cadre tofar d'un tefar épaisseur, ça vive autour. Vasita. Zeir, Zahav, les misgardos saviv. Et la couronne doit être sur le misgeret. Donc le zeir qu'on a parlé dans Pasuk Avdalet, c'est le même zeir. Rashi dit, Il est donc sur ce cadre.
D'accord, c'est un encadrement tout autour.
Ve'asitalo, tu lui fabriques arba tabotzav. Quatre.
Quatre anneaux.
Quatre anneaux au nord. Venatata et ta tabot. Tu mettras les anneaux à l'arba hapeot sur les quatre coins, à sur l'arba raglav qui sont sur les quatre pieds. Alors il y a ici toujours 4, 4, 4. Toutes les chiffres ont une signification. Les quatre directions, arba peot, les quatre coins. Ce sont des notions qui existent sur des villes, sur le Beth Amikdash, sur des maisons, sur le monde entier. Et ça a une signification dans la Kabbalah, on parle de ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Les quatre directions, comme il y en a quatre animaux, quatre espèces de malachim dans le Maaseh Merkava, et ça, ce sont quatre façons comment il faut servir Hachem. On dit toujours est, ouest, oui, nord,
quatre,
sud.
Quatre coins cardinaux.
Oui, le nord, c'est toujours la puissance, l'argent, le pouvoir. Le sud, c'est la sagesse. L'est et l'ouest. L'est et l'ouest, c'est quoi?
L'est est vers Ivry. Donc l'est, c'est la...
non, c'est l'est.
Le spirituel.
Ça dépend avec la façon comment le peuple juif était installé autour du Mishkan. Il est marqué dans Chumash, le Mishkan était au milieu et les Juifs ont campé autour. Il y avait 12 tribus et les 12 tribus étaient partagées en 3, 3, 3, 3. Il y a 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, au sud et au nord. Et d'après les qualités de ces tribus et l'ordre que Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu ont attribué à ses enfants, ses tribus. D'après ça, on les a placés autour du Mishkan. Quand on dit tel et tel, par exemple, Yehuda, Issachar, Zvolun, ils ont campé à l'est. Ils ont campé à l'est. Et Moshe, Aaron, aussi, ils ont campé à l'est, à côté de la porte du Mishkan. Donc, Yehuda, Issachar, Zvolun, ce sont 3 tribus à qui on attribue le côté est. Ce qu'eux, ils faisaient, c'est vers l'est. Et ça correspond, on dit, il y avait 4 malachim. Mimeni Michael. Michael, c'est au sud. Mismoli, à gauche. Gabriel, c'est au nord. Milfanaï, Raphaël. Devant moi, c'est l'est, c'est Raphaël. Oumé Achorai. Uriel, si je ne me trompe pas. L'ouest, c'est Uriel. Val Roshi Shrinat Kel, et sur ma tête, c'est la Shrina. Et donc, l'est, c'est. Mimini Michael, Mismoli Gabriel, Milfonaï, Uriel, Miachorai. Non, Uriel, c'est devant. Non, Uriel, c'est l'est. Je me suis trompé. Uriel, c'est l'est.
C'est pas Michael, l'est.
Mimini Michael, à droite. Droite, c'est le sud. C'est le sud, c'est Michael. Gabriel, c'est le nord. Umilfanaï, Uriel, Umilchara, Raphaël. Uriel, c'est Orion. Uriel, c'est Orion. C'est l'est.
L'est.
Ah oui, le malach Uriel et Or, ça vient de Or. Or, c'est la lumière. Le soleil vient de l'est. Uriel, c'est l'ouest. L'est. Et Umilfanaï. Mais Achorai, Raphaël. Derrière, c'est l'ouest. Il s'appelle derrière. Ça, c'est derrière, c'est... On regarde vers l'est. On regarde vers l'est. Donc, en regardant vers l'est, la droite, c'est le sud, et la gauche, c'est le nord, et devant, c'est l'est, et derrière, c'est l'ouest. Alors, par exemple, les tribus de Yehuda, Issachar, Zvolun, ils ont campé à l'est. Donc, ça, c'est Uriel, c'est la lumière. Issachar, c'est la lumière de la Torah. Alors, ces quatre... des Galim du Klal Israël sont cités dans quel paracha? Parashat Bamidbar. On va regarder un petit peu dans Parashat Bamidbar. Avec les drapeaux, oui. Vachonim Keil Bamidbar, c'est chapitre 2. Dans Bamidbar, chapitre 2. וידבר השם משה ולאהרון לאמור, איש אל דגלו באותות בית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, ואחרונים כעת במזרח, הסוכת יאלסט, מזרח חלה ולסולי רעיון, דגל מחנה יהודה לצבאותם. דונק אליה יהודה, אפרי יששכר זבולון, דונק ססה לסט. Maintenant, on a Degel Machne Rouven Teman en sud. Le sud, c'est Michael, ça c'est Rouven, Shimon et Gad. Rouven, Shimon et Gad. Après, il y a le Oel Moed qui voyage. Après, Degel Machne Ephraim, ils sont côté ouest. Côté ouest, derrière, c'est Ephraim, c'est Menaché et Binyamin. Et après, le nord, c'est Dan, Idatadin, parce que Dan, c'est celui qui est porté la voix d'Azara. Dan, Naphtali et Asher.
D'ailleurs, si on voit bien, quand s'il marche vers l'est, la main gauche, la gauche, c'est Dan, c'est la rigueur, et la main droite.
Oui, oui. Donc, pour comprendre le travail de chaque tribu, maintenant, tous les ustensiles qui étaient carrés, comme la Arona Kodesh, comme le Shulchan, oui. Ce sont des Mizbeach. Il y a plein de halachot, quel côté on met le son oui. Qu'on met sur la Péa, sur les coins du Mizbeach.
Pour faire la Shrita.
Et pour mettre le son dessus. Alors, les coins, les extrémités, quand les midot se rencontrent, des fois, le service d'Hachem est fait avec une mida, avec un caractère. Et des fois, il faut que les deux caractères se rejoignent. Et c'est là-bas le point de servir Hachem. Et c'est là-bas qu'on met le son dessus. Des fois, on met le son à l'karnot hamizbeach. Il y a le phénomène de keren. En ce qui concerne ici le shulchan, vasitolo arba tabotzahav, donc tu mets arba hapeot, les quatre anneaux sur les quatre coins, Asher la arba raglav, sur qui sont les quatre pieds. Quatre pieds, la table, il a quatre pieds. Le umat hamizgeret, en face de ce cadre, tienne hatabot, ils sont installés les bagues. Les vatim, comme batim, comme des maisons, comme des chambres, comme des enveloppes, les badim, pour les poutres. Badim, c'est les poutres. La sept est un shulchan qui sont faits pour porter le shulchan. Donc le shulchan, il avait des barres pour le porter. Et l'aaron, il avait des barres pour porter. On avait déjà vu que les barres qui étaient dans l'aaron à Kodesh, il ne fallait jamais enlever. Mais cela, de la table, on a vu le droit d'enlever. C'est-à-dire les barres du Aaron à Kodesh, il ne faut jamais enlever parce qu'il faut toujours être en état d'alerte. Si jamais il y a une invasion, il faut tout de suite sauver l'Aaron à Kodesh. C'est l'objet le plus kadosh qui existe. C'est la Torah, les Luchot. Ça doit être protégé devant l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il faut tout de suite dégager la Torah pour que l'ennemi ne détruit pas la Torah. Ça, c'est ce qu'Abiyo Hamazaka, il a fait au moment de Chorban du Beit HaMikdash. Il a envoyé les Chachamim à Yavne pour qu'ils ne soient pas à Yerushalayim. Parce qu'à Yerushalayim, il y avait la guerre et les massacres. Il a envoyé les Chachamim à Yavne pour sauver la Torah. Ça, c'est les barres qui sont dans la Rona Kodesh pour sauver. Il ne faut jamais les enlever. Mais la table, on a eu le droit d'enlever. Une fois que la table il est posée, on peut enlever les barres. Il n'y a pas d'interdiction. Tu feras les barres avec du bois de chitim. Encore une fois, ce bois de folie, il y a quelque chose de folie. Chitim, il y a quelque chose de folie. La folie. Chez Yonah Hanavi, il est marqué, quand Elisha Hanavi l'a envoyé, son élève Yonah, pour dire à Yehu ben Nimshi que Dieu le nommait roi et qu'il a l'ordre d'exterminer toute la famille d'Achav. Là-bas, il est marqué que Yonah, il est rentré dans le cercle des officiers qui étaient réunis et il a dit, je veux parler avec le chef. Il a parlé dans une chambre cachée avec Yehu. Après, il est sorti. Et quand il est parti, Yona. Et quand Yehu, il est venu dans la chambre, les officiers, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a voulu, ce fou de toi? Alors Yehu, il a dit, ben là, vous le savez très bien, voilà, vous l'avez bien dit, c'est un fou. Alors les officiers, ils disent, non, c'est pas un fou, c'est on dirait un élève d'un prophète, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il dit, voilà, Dieu m'a nommé le roi sur les Juifs. Il m'a donné l'ordre de tuer la famille d'Achav. Donc, les officiers de Yehu, quand ils ont vu l'élève d'Elisha Navi, ils l'ont appelé le fou. Ça veut dire chez les gens qui étaient un peu loin de la prophétie, pour eux, les prophètes étaient des fous à leurs yeux. Parce que des hommes saints, ils doivent se comporter malheureusement d'une façon de lutter contre les Yetzer Hara, d'une façon que le simple juif ne comprend pas. Simple juif le prend pour les fous. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a des gens qui sont vraiment fous et qui croient qu'ils sont des grands serviteurs d'Hachem. Il y a les vrais serviteurs d'Hachem qui ont un comportement comme un fou aux yeux des gens. Maintenant, il y en a des gens qui sont plus ou moins fous. Ça, c'est autre chose. Mais il y a celui-là qui ressemble à des fous. Il y a toujours, même les barres sont chitim. Alors, on continue. Voici t'es à Badim. Tu fabriqueras les badim, les barres, atsechitib et tzibita otam zahav, tu vas les couvrir avec de l'or. Venisabam et tashurhan. Et la table, il sera porté grâce à ces barres. Voici tes ka'arotav. Tu as fabriqué des ka'arot. C'est quoi ka'arot? La forme. C'est la forme quand on faisait les pains. La shulchan, c'était pour mettre dessus les 12 pains.
Les moules.
Tu vas fabriquer des moules. Le chapotav et ses cuillères. Pourquoi il avait des cuillères? Non, chapotav rashi traduit, c'est des bols où on met dedans de l'encens. Il fallait mettre 2 bols de l'encens toute la semaine, était sur la table. Tu vas fabriquer chapotav, c'est des bols de l'encens dedans. Après, uksotav. Que sotaf, ce sont des demi-tubes sur lesquels on posait le pain. Et il y a de l'air qui circulait dans ces deux demi-tubes pour que le pain ne pourrit pas. Ou menakiotav. Menakiotav, ça c'est les deux murs sur le shulchan qui montent en haut.
Oui, les deux parois.
Asher yusach bahen. Asher Yusach Bahen, avec lesquels on couvre la table, comme si la table était un peu protégée. On couvre qu'on ne voit pas. Zahav, Taor, Tassietam, tout ça c'est en or pur.
Donc ils étaient cachés les pains finalement, parce que quand on passait sur les côtés, on ne le voyait pas le pain.
Voilà, on ne voyait pas. On voyait ici, mais ici on ne voyait pas.
Sur les côtés, tu ne vois pas, parce qu'il y a des bords.
Ben Atata, la Shulchan, tu poseras sur la table l'echem, du pain. Panim. De visage, de pain de visage. C'est quoi du pain de visage? Le pain, il a un visage. Quel visage il avait, le pain? Le fanaï devant moi, tamis toujours. Donc vendredi, on cuisinait. Shabbat, on le posait sur la table. Ça restait pendant une semaine. Shabbat après, on enlevait et on remettait tout de suite d'autres pains qui étaient cuisinés et qui étaient cuits vendredi. Et après, quand le Shabbat, quand on levait le pain, on le distribuait au Kohanim, le Kohanim le mangeait. Et quand le Kohen Gadol était tzaddik, quand le Beit Mikdash était géré par des gens justes, dans ce cas-là, le pain, il était fraîche. Il restait fraîche toute une semaine, et chaud, et fraîche, et croustillant. Et quand le Kohen Gadol était un voyou, alors le pain, il était vieux. Donc l'echem panim, c'est le pain de visage, c'est-à-dire le pain ressemble au visage du Kohen Gadol. Visage du Kohen Gadol, c'est un homme fraîche, rayonnant de fraîcheur pour le service de Dieu, eh bien le pain aussi, il était fraîche. Et quand le Kohen, il était un voyou, il avait un visage triste pour être servir Hachem, et bien le pain aussi, il avait un visage triste. Alors ici, il dit, le Ramban explique le sens, ici, là, le Mefaresh, le Ramban explique le sens ésotérique de la table. Dieu a amené l'univers à l'existence à partir du néant absolu. Mais, depuis cette création, se perpétue d'elle-même à partir des éléments, cette création se perpétue d'elle-même à partir des éléments, donc il a pourvu et plus rien n'apparaît ex nihilo. En revanche, lorsqu'il le désire, Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui existent déjà et l'accroît de façon prodigieuse, comme on le voit à propos du prophète Élisha, amenant la bénédiction sur la cruche d'huile de la veuve, qui parvint ainsi à remplir tous les récipients qu'elle s'était procurés. De la même façon, le pain qu'on l'on déposait chaque semaine sur la table amenait une abondante prospérité sur tout le peuple. Le Talmud rapporte un autre aspect de ce miracle, le Kohen, qui en mangeait ne fût-ce qu'un petit morceau, se trouvait rassasié, et pour reprendre l'expression des sages, ce pain était béni dans ses entrailles. Et il se bénit dans les entrailles. Ça veut dire, tu manges un tout petit peu, et ça te donne...
Bénéfique pour lui.
Bénéfique. Comment ça fonctionne? Il y a du sucre lente dedans, il y a du sucre condensé, une force... Ou comme si le corps ne dépense, ne brûle que très peu des calories.
Grand pouvoir nutritif.
Il est grand pouvoir. Moshe Rabbeinu était 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï. Du pain, il n'a pas mangé. De l'eau, il n'a pas bu. Les Américains, ils disent qu'il a bu Coca-Cola. Mais ce n'est pas ça le pshat du Chumash. Non, le Chumash, il dit qu'il n'a pas bu de l'eau. Mais Coca-Cola, oui. Non, mais il n'y a ni d'eau, ni Coca-Cola. Et comment il a vécu? Parce que... un homme, il peut vivre par une autre chose. Quand on parle avec Hachem, quand on est connecté avec Hachem, il y a une autre sorte d'alimentation. On peut vivre sur une autre sorte d'alimentation. Et ça, c'est aussi le Lechem Apanim. Il nourrissait les Kohanim avec quelque chose de kadosh.
Ça ressemble aussi au Tzafat Tzedekim qui mange d'un Shabbat à un Shabbat. Il
ne
mange pas pour toute la semaine.
Avec Hanina Ben Dossa, qui était très pauvre, qui mangeait très peu. Alors, Vasita Menorat Zahav Tahor. Tu feras maintenant un chandelier en or pur. Pourquoi il est marqué Menorat? On aurait dû dire
Menorah.
Un chandelier, c'est Menorah. Menorat, c'est qu'on s'est attaché à quelque chose. Menorat Zahav Tahor. Le chandelier d'or pur. Bon. Miksha, frapper, ça veut dire avec le marteau, le burin, ça veut dire c'était pas coulé. J'aurais pu croire que la menorah a été coulée avec, c'était chaud, mais c'est pas vrai. C'était miksha, c'était à froid quand l'or était dur. Il a pris un burin, il a tapé pour fabriquer. Miksha te'ase ha-menorah, sera fabriqué la menorah.
Il faut un bloc d'or énorme.
Hein?
Si c'est en un seul morceau, il faut un bloc d'or énorme.
Un bloc d'or énorme, exactement. Et après, qu'est-ce qu'on faisait avec le reste de l'or qui tombait? On faisait d'autres ustensiles avec, peut-être. Te'ase, non, les kiyor n'étaient pas en or. Alors, miksha te'ase ha-menorah. Yereicha, yerech, c'est le pied. Le kana, c'est le pilier du milieu. Gvieha, c'est coupe. Kaftoreha, c'est bouton. Ufracheha, c'est fleur. Mimena yiyu, de chandelier lui-même, de ce bloc d'or, ils ne seront pas collés. Ça doit être du bloc lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il représente la menorah? Ça représente quoi?
La Torah, la lumière.
La lumière. Alors il dit ici en bas les symboles évoqués par la menorah et les interprétations ésotériques. Donc elle a fait l'objet sont quasiment infinis. Au niveau le plus simple, la menorah d'or avec ses ornements est destinée à rehausser la majesté du Ohel Moed. Elle est placée dans la pièce extérieure pour s'offrir à la vue de tous et les inspirer. Elle se trouve à l'extérieur de Kodesh Kodeshim pour souligner que l'arche et tout ce qu'elle représente n'ont pas besoin de lumière. La Torah, c'est lumière. La menorah alimentée par l'huile d'olive la plus pure symbolise la lumière de l'esprit. Elle est disposée près du mur du sud de Ohel Moed, face à la table qui se trouve au nord. L'arche dissimulée derrière la parole et derrière le rideau est située à égale distance des deux, montrant que la parole de Dieu qu'elle renferme rayonne aussi bien sur la menorah, représentant le domaine de l'esprit, que sur la table qui représente la prospérité matérielle. Autrement dit, toute notre existence au plan spirituel et matériel doit être guidée par la Torah et mise en son service. La vie juive ne saurait être scindée en deux domaines, sacré et temporel. La Torah régit tous les aspects de notre vie et demande la pureté dans chacun d'eux. L'obligation de façonner la menorah tout entière dans toute sa complexité à partir d'un seul lingot d'or témoigne de cette indivisibilité. La foi juive doit se fonder sur un système de valeurs unique et ne peut être un mélange d'éléments hétéroclites assemblés selon la fantaisie ou l'intérêt de la personne. Toutes les sphères de la vie doivent s'insérer dans un même système de valeurs. Comme le fait remarquer le Sforno, les flammes de six branches de menorah doivent être orientées vers cette tige centrale pour souligner que tous les accomplissements intellectuels doivent entièrement se tourner vers la lumière de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Sur la menorah, il se trouve quoi ? Des choses jolies. Il y a dans la menorah des parties qui sont indispensables et des parties qui ne sont pas indispensables. Par exemple, qu'il faut 7 branches, c'est indispensable. Qu'il faut mettre en haut quelque chose, tu peux verser de l'huile, c'est indispensable. Qu'il faut des mèches et de l'huile allumée, ça c'est indispensable.
Les fleurs,
les 3 choses ne sont pas indispensables. Les fleurs, les boutons et la coupe, c'est pas indispensable. C'est cacher même sans ça. Même l'or, on n'a même pas besoin de faire de l'or. Tu peux faire même du fer. Si on n'a pas d'argent de faire une menorah en or, quand la menorah a été volée par les Grecs et les Hashmonaïm, ils étaient obligés de faire une menorah. Ils n'avaient pas assez d'or, ils étaient pauvres. Ils ont fait avec un métal très simple. Après, quand ils sont devenus riches, ils ont changé en or. Mais ces cachers sont tous les spécialités de l'or. Donc, Gvia, ça représente quoi, la Gvia? La coupe. Gvia, une coupe. C'est quoi une coupe? Où on met du vin dedans. C'est quoi le vin? La joie. Le vin, c'est quoi? La richesse, ça représente quoi?
Le vin, c'est ce qui sert à faire les...
Kiddush, ça rehausse.
Ça donne une
importance, le vin. Vieha, la coupe. Kaftoreha, un kaftor, c'est un bouton. Ça représente quoi, le bouton? Keracheha, la fleur. La fleur, ça fleurit. Chaque tige a ses ornements. Et il y a 7 tiges, une au milieu et 3 à gauche, 3 à droite. Tout ça, ça représente certaines parties de la Avodat Hashem. Il y a 7 bougeoirs qui sont dirigés vers le milieu. C'est des différentes sortes de chokhmah, différentes sortes de sagesse. On dit toutes sortes de sagesse qui existent au monde. Je ne sais pas, la science et la musique. Et il y a beaucoup de sagesse. Et chaque sagesse est une lumière. Ça éclaire pour que les gens ne marchent pas dans l'obscurité. Oui, Shisha, Kanim, Yotsi, Mitsede, Hasi, branches sortiront de ses côtés. Shalosha, Kanim, Menorah, 3 branches de Menorah, Mitsida, Echad, ils sortent d'un côté. De l'autre côté, il y a trois autres tiges. Shlosha givim, trois coupes. Meshukadim.
C'est un peu comme le visage, si on prend les orifices, c'est 1, 2, 3. Ça fait la partie droite et la partie gauche, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Et le milieu, ça serait peut-être la bouche.
Oui, dans la bouche et dans tout le corps, il y a des choses qu'il y a au milieu, une. Il y a des choses qui sont à gauche et à droite, double, deux mains, deux pieds. Il y a des choses qui sont au milieu, il n'y a qu'un. Shlosha givim, trois coupes. Meshukadim. C'est quoi Meshukadim? Shaked. C'est-à-dire quoi Shaked?
C'est pas des amandes, ça?
Une amande. Amandé. C'est-à-dire quoi amandé?
Amandé. C'est des givim, Meshukadim? Ou Shlosha givim, Meshukadim?
Trois coupes meshukadim qui sont amandées. Il y a des dessins des amandes sur la coupe. Voilà. Qu'est-ce que ça représente la...
L'amande.
On va chez Korach, Aaron à Cohen. Les gens qui voulaient évincer Aaron, alors il y avait un bâton. Et le bâton d'Aaron, c'était un bâton de...
D'amandier,
il a fleuri le premier.
Les amandes, c'est quelque chose de... C'est rachou.
Bakanea echat, sur une tige, kaftor beferach, avec un bouton, une fleur. Ou shlosha gvim, trois autres... Trois autres
coupes,
meshukadim, amandées, bakane achat, sur une tige, kaftorofar, erken les chizidim, comme ça c'est pour les six branches ayotim qui sortent min hamenorah. Ou va menorah, bagri, menorah, ici c'est le milieu. Il y en a quatre coupes. Meshukadim, tous amandés, kaftorea, avec ses boutons, ufrahe, avec kaftor. Il y a un bouton, tachachne kanim, menorah, où les deux tiges partent. C'est-à-dire, sur le milieu, sur le canet qui est au milieu, il y a un kaftor, là où il y a deux branches qui sortent.
Ça fait trois, il manque une. C'est, ah, la quatrième, c'est celle du haut. Si on a la menorah qui est comme ça,
il y a six.
Ça fait un, deux, trois. Il manque la quatrième.
Trois,
quatre. Il manque quatre ou trois.
Il n'y a que sept.
Alors ici, il y a, vous avez ici le dessin.
Il n'y a que sept dans la menorah.
Non, les boutons.
Alors ici il y a un bouton, là il y a deux canimes qui partent, un bouton il y a deux canimes qui partent, un bouton il y a deux canimes qui partent. Maintenant en haut ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 boutons nimes. Donc il y a 7 plus 8 plus 9 plus 10, donc il y a 10 boutons. Maintenant il y a 3 gvim, 3 gvim, 3 gvim, 3, donc il y a 7 fois 3, ça fait 21 gvim. Plus il y a encore un gvia ici, 22. Shlosha gvim meshukadim bakane ha'echad, plus un kaftor, plus un perach. Il faut encore une fleur quelque part. Il faut aussi une fleur. Je vois pas les fleurs. Ah, c'est ça qui fait la fleur. La fleur, elle est ici. Kaftor est ici. Et trois coupes. Trois coupes, le poumon et... D'accord. משוקדים בקנה אחד, כפתור, דקור. ובמנורה ארבע גבים, משוקדים, עמודי, כפתורי, ופרחם, וכפתור. אין בוטון, תחת שני קנים ממנו, לאו ינדו ברונש כיסורת, וכפתור, אין אותר בוטון, תחת שני הקנים ממנה, לאו ינדו ברונש כיפרת, וכפתור, אין אותר בוטון, תחת שני הקנים ממנה. לששת הקנים פורלסי ברונש, היוצאים כיסורת מן המנורה. כפתורם, לאור בוטון וכנותם, וכנותם. Leurs branches mimena iou. De la menorah elle-même, ils ne seront pas collés, mais de la chose elle-même. C'est-à-dire, tout il va devenir de la Torah, de l'intérieur, pas collé de l'extérieur. Kula miksha'acha, tout doit être un bloc, sahav tahor. Un bloc. C'est assez important qu'un homme sera un bloc. La majorité des gens ne sont pas un bloc, sont plusieurs blocs qui sont collés.
effectivement les mêmes débloqués.
Hein?
Les efforts les mêmes débloqués.
On est composé par... on est un peu français, un peu juif, un peu anglais, un peu animal, un peu mouche, un peu fou, un peu... On est différentes personnalités dans la même personne. La majorité des gens, ils sont composés par différentes personnes. C'est pour ça, des fois, tu as des gens, ils sont pas toujours les mêmes. Ils se comportent à la maison comme une personne, au boulot comme une autre personne, à la synagogue comme une troisième personne, comme père, comme en privé et public. C'est pas les mêmes personnes, parce qu'ils sont composés par des contradictions. Et quand c'est par des contradictions, et bien c'est pas harmonieux. Même que l'homme, il est très, comme on dit ici, il y a des boutons, il y a des amandes, il y a des coupes, il y a plein de choses ici dans cette menorah, mais c'est le même bloc, c'est la même chose qui coule partout. C'est comme un homme, par exemple, le sang qui coule dans le corps de l'homme, il est toujours le même. Il y a les pieds, il y a les mains, les membres sont différents, mais c'est le même oxygène, c'est le même sang. Tout y coule partout, c'est une entité des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça peut travailler. Le sang, il est partout le même. Les poissons, ils ont du sang froid. Non, mais il a du sang chaud. On peut pas, ça, il faut tout de même. Il y a des choses qui doivent lier. C'est tellement bizarre de voir des gens, on dirait, ils sont schizophrènes. Ils se comportent d'une façon tellement gentille, tellement extraordinaire. De l'autre côté, ils sont tellement égoïstes. Et tu te poses la question, mais je ne comprends pas, je ne le connais pas comme ça, ce monsieur. C'est parce que c'est bricolé. Parce qu'il y a plusieurs personnes en lui bricolé. Ici, la menorah, la Torah demande la menorah que ce sera du même, de la même pièce.
Il faut être entier peut-être. Il faut être entier. C'est-à-dire qu'il faut être un seul bloc.
Vasita et Neroti Ashiva. Et tu fais les Nerot. Nerot, donc c'est les bougeoirs dans lesquels on verse de l'huile. Tu feras 7. Qu'est-ce que ça représente ici, le chiffre 7 pour la mise B? Après, toujours, on a parlé des quatre coins. Et des quatre. Anneaux, etc. Ici, il y a 7. C'est une autre sorte. 7. À quoi ça représente le 7? Les 7 jours de la semaine. Dans la nature, il y a 7 jours de la semaine.
Les sept sphères.
Pourquoi on a fait? Pourquoi le bon Dieu il a fait 7 jours de la semaine? Il y a combien? Il y a 30 jours.
C'est ça,
30, par exemple, 29, 30, un mois, c'est le tour que le soleil, que la lune fait autour de la terre, un mois. Donc c'est 29 jours. Alors 29 jours, on aurait pu faire des semaines de quoi? De 10. 10, 10, 10, 3. Mais c'est un peu trop. Parce que c'est 29 jours et demi, si tu fais 10, hein? Pas exact. Et 7, c'est quoi? Ça fait 28.
9, c'est plus que juste.
9, 18, 27. Il te reste un trou. Si tu es 27, il te reste chaque
7,
mois.
Il reste un trou aussi, 7.
7, ça fait 18, 28. Il reste un jour et demi. Il reste un jour et demi. 7, 4 fois 7, ça fait combien?
28.
Donc il reste un jour et demi qu'il faut reporter. Mais 8, 4 fois 8, ça fait déjà 32. On est déjà 32. Le plus exact pour calculer le mois, c'est 7. 7 jours. Donc, ça donnait des semaines et 7 jours. Le bon Dieu, il a fait.
On a pu faire 7 semaines de 4 jours.
Hein?
On a pu faire 7 semaines de 4 jours aussi.
7 semaines de 4 jours, voilà. 7 semaines de 4 jours. Le bon Dieu, il aurait pu faire le monde en 4 jours s'il aurait voulu. T'as raison. Il aurait pu faire 4 jours, une semaine de 4 jours. Et les Français l'ont fait la semaine de 4 jours.
Quand on dit les 10 sphères, les 10 sphirotes, il n'y a pas 3 sphirotes qu'on ne peut pas atteindre. plus c'est lesquels, mais...
Oui, les trois sphirotes en haut.
On ne peut pas atteindre, et donc il reste 7.
Il reste 7 que l'homme y travaille. À partir de Chesed jusqu'au Malchut, c'est fait 7. Et en haut, on dit à Keter et Chochma et Bina, les trois qui sont en haut, qui ne sont pas accessibles, oui. Alors, en tout cas, on va finir ici le texte. Basita et Nerotea Shiva, tu fais 7 bougeoirs. Vehela et Nerotea, il va faire monter les bougeoirs. La bougie doit être en haut. C'est-à-dire, la mèche doit aller vers le haut, la lumière doit être vers le haut. Veheir al Ever Panea, elle doit éclairer al Ever Panea, la face de son visage. Il faut éclairer la face de son visage. Ou Malkacheha, c'est quoi Malkacheha? Melkachaim, c'est les tenailles avec lesquelles on met dedans, entre autres, les mèches. Ou Martoteha.
Il y avait un outil pour mettre la mèche, on ne peut pas les mettre à tout droit, il fallait mettre un...
On les mettait des pincettes, c'est le genre des pincettes. Pour qu'on mette dans l'huile, et il faut pouvoir manipuler un peu pour ne pas toucher.
On n'avait pas le droit de toucher, c'était un sourd de toucher.
Je ne sais pas si c'est un sourd, mais si c'est chaud, ça brûle.
C'est peut-être haut. C'est peut-être trop haut.
C'est 1 mètre et 80 cm. La menorah, elle avait une hauteur de 18 farim. 1 mètre 80, pas très haut. Alors. Au Malkaché, il y avait un escabeau de trois marches. Et Aaron Akohen, il est monté sur l'escabeau. Il montait trois marches. Pourquoi il était obligé de monter trois marches? Aaron était grand, était un Lévi, les Lévim, ils étaient grands par nature.
Pour avoir un bon auteur, parce que même si c'est 1m80, imaginez qu'il était grand à 1m80.
Non, il était beaucoup plus grand. Beaucoup plus
grand. C'était genre 2 mètres?
Oui, plus. Amos Aaron était très grand. Alors. Umalkacheha umachtotea machat. C'est quoi machtot? C'est
marteau.
Non, machtot, c'est un truc avec lequel on nettoie la cendre des petites.
Une petite balayette, un plumeau.
Bazir, c'est un ustensile dans lequel on met la cendre. Martotea Zahav, tout était en or.
C'est-à-dire, même l'endroit où on met les
cendres, après, il y a été de l'or. Kikar, c'est une certaine quantité, un kikar, je ne sais pas combien c'est. Un kikar, c'est une quantité. Zahav Tahor, de l'or pur, il y a assez autant, tu fabriques la menorah. Un bloc d'une tonne, ou je ne sais pas combien de l'or. C'est ça qu'on a taillé. Et kola kelim, et elle est assez haute, tu fabriques, et kola kelim, et tous les ustensiles. Ourei, et regarde. Vasei, et fait, betavnitam, dans leur image, asheratam, more bahar, qu'on t'a montré à la montagne. Moshe Rabbeinu, il a vu tout ça sur la montagne quand il était au ciel. Et après, il était obligé de donner les instructions pour le fabriquer. Donc, on est chapitre Kafaf. Le Mishkan, tu fabriques 10 yériot de tapis. Alors le Mishkan, c'est-à-dire c'est la couverture, le toit. C'est intéressant que le mot Mishkan veut dire toute la El Moed s'appelle Mishkan, Mishkan résidence, mais le mot Mishkan en détail veut dire le toit, veut dire les tapis sur le toit. Comment ça se fait que le toit, c'est le même mot que la maison?
Le toit, c'est un toit dur ou c'est un bon toit?
Tapis. C'est un tapis. Il y a des murs en bois, couverts d'or, et le haut, il est vide. Et c'est les tapis, trois sortes de tapis, qui étaient le toit. Et ce toit s'appelle Mishkan, et toute la maison s'appelle Mishkan. Pourquoi le toit, le même mot que tout?
Peut-être que le plus important dans une maison, c'est le toit plus que les murs.
Ah. Dans une maison, le toit, c'est le plus important. Pourquoi le toit est le plus important? La maison est faite pour protéger. Protéger de quoi? Il y a les murs, il y a le parterre, il y a le toit. Pourquoi le toit, c'est plus important que le reste?
Parce
protéger du soleil et de la pluie, et les murs pour protéger que les hommes ne viennent pas. Et ça, c'est du ciel. Le soleil et la pluie viennent d'en haut. Quand il pleut, on se met sous quelque chose. C'est la protection d'en haut. C'est intéressant, même la soukha, on dit le plus important, même qu'il y a des conditions, qu'il faut des murs aussi, mais les lois sont sur le schach plus que sur les murs. Et on dit, on est abrité sous les ailes de la shrina, la couverture d'Hachem qui nous couvre d'en haut. C'est plus la protection du haut. Hachem, il protège d'en haut. Aussi, c'est comme ça. Maintenant, le Mishkan représente aussi l'homme. L'homme, il est couvert par la peau. Ici, il y a trois peaux, mais ça, c'est en haut. C'est quoi? C'est le cerveau. La partie haute de l'homme, c'est la partie la plus importante.
Mais de l'autre côté, la toile, c'est pas une protection absolue. Donc, peut-être qu'il fallait laisser quelque chose d'assez. C'est quand même fragile, une toile. Peut-être qu'il fallait laisser une.
C'était du cuir.
C'était du cuir, là.
Le haut, tout en haut. Avant, on va voir, il y avait trois. Ce qui était visible à l'intérieur, c'était fait de laine, tapis de laine. Après, c'était de chèvre. Et après, c'était carrément cuir, ortachash, de cuir.
C'est une meilleure protection.
Le cuir, c'est une meilleure protection, oui. Alors, Beit HaMishkan, c'est Essa Yeriot. Ça représente quoi? Les 10, le chiffre 10. Chaque chiffre dans le Mishkan représente quelque chose, le chiffre 10. Bon, il y a Serata Dibrot. Il y a 10 paroles avec le monde été créé. On dit, il y a Essa Shirot, 10 forces avec la chaîne. Il est créé 10 doigts. Dans la nature aussi, il y a des chiffres. Alors, le chiffre 10 dans la nature, il est par les 10 doigts. Les doigts. Et les doigts représentent quoi, les doigts? Hachem, il a gravé les Aseret HaDibrot avec le doigt d'Hachem. Be'etzba Elohim, quand un homme, il veut identifier. Pour identifier l'homme, on prend l'empreinte digitale. Hachem, il a mis son empreinte digitale dans les Luchot. La Aseret HaDibrot, il les a écrits avec son empreinte digitale. Il y a 10 empreintes qui chaque homme est différent.
Donc ça, c'était la laine.
Et quand l'homme, il lève les bras, il met les doigts, donc c'est la partie la plus haute. La partie la plus haute, quand tu mets la main en haut, la main, c'est l'action. Quand tu mets les maxions en haut, c'est les 10 doigts qui sont en haut. Alors quoi, les 10 Mishkan, les 10 tapis. 10 tapis qui étaient cousus, on va voir tout de suite. Un à côté de l'autre, 10 tapis. Shesh. Shesh, ça veut dire du lin. Moshzar, tressé. Du lin tressé. Ou trelet, le bleu azur. Vers Argaman, rouge écarlate, la laine. Shesh veut dire du lin.
Mais c'était pas en laine?
Ah, je me suis trompé.
Chesh,
Mojza, je me suis trompé. Ou Trelet, c'est la laine. Il y a des fils de lin. Ou Trelet, c'est le fil de laine.
Mélangé entre eux. Tissé entre eux.
Après, Argaman. Argaman, c'est rouge écarlate. Tola Hachani, c'est cramoisi. Rouge cramoisi. Kruvim, il faut des dessins de chérubins, Maase Choshev, une action très réfléchie. Tassé autant, tu les fabriques. Alors, Rashi, qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Arba minim yachad bachol chout, chaque fil doit être un, chaque fil, il est avec une partie de lin, trois parties de laine, c'est-à-dire le bleu azur. Le rouge écarlate et le rouge chromasi, c'est fait de laine. Donc il y a trois quarts de laine et un quart de lin. Et ça fait un fil. Et après chaque fil, on prend, donc c'est fait beurre 4. Et après chaque fil, il est doublé 6 fois. Donc ça fait 24. Donc chaque fil, il a 24.
Mais c'est quand même étonnant, tous ces détails. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas autant de détails. Les téfilines, il n'y a pas de détails. Pourquoi à ce niveau-là, il y a autant de détails?
Alors c'est ça, écrit, c'est la c'est maison pas de la Dieu.
Non, mais c'est, on aurait pu dire que c'est la tradition orale que ce qu'a reçu Moshe. Là, c'est vraiment écrit dans la...
La maison de Dieu, c'est tellement longuement expliqué dans la Torah. C'est tout le sens du monde, d'inviter Dieu dans ce monde. Qu'Hachem, qui est le Bourg et l'âme tellement grand, il s'intéresse à ce petit monde. J'ai reçu un super beau. J'ai reçu un mail super beau il y a 2-3 semaines. Vous l'avez vu? Les astres? Phénoménal. Je vais vous le montrer. Donc, chapitre Kava, Veta Mishkan, donc, Taase Esayot, on a dit ce pasuk. Orech Hayriya Ha'achat, la longueur d'un tapis, Shmone Vesrim Ba'ama, 28 Amot, Verochav Arba Ba'ama, largeur 4, Hayriya Ha'achat, un tapis, Mida Achat Kol Hayriyot, il y a la même mesure pour tous les tapis. Donc, nous avons 4 largeurs et 28. Et on met 10 tapis, donc 10 fois 4, ça fait 40. Donc ça fait 40 sur 28. Et le Mishkan, il est quoi? Il est diamant hauteur. Il est diamant largeur. Donc il y a 28. Donc il y a ici 9, 10, 9. Donc ça laisse une amma vide qui n'est pas couverte. Et il y a 40. Hein?
Une lame vide sur les murs
qui n'est pas couvert. Par la première couverture, première, deuxième, troisième couverture. Maintenant, il y a 40. Donc, il y a le Mishkan, il a 30 longueurs. Et derrière, ça descend 10. On laisse aussi 1. Et 1, il est ici. Alors, donc ça, c'est la première. Chamesh Hayriot. Donc, il y a 5 tapis, Tiyen Achovot. Ils vont être rattachés, Isha et Lachota. Une sœur, une femme vers sa sœur. C'est-à-dire qu'il y a 5 tapis cousus ensemble, 5 tapis cousus ensemble, et après, ils vont être accrochés. Et les deux tapis s'appellent une femme vers sa sœur. Ces 5 tapis, c'est une femme. Les autres 5 tapis, c'est sa sœur. C'est tous des allusions, comment le monde est composé. Le Chamesh Iriot, les 5 tapis, Chovrot, sont attachés, Isha et Lachota, une femme vers sa sœur. Voici, tu fabriques l'ul hot techelet. L'ul hot. C'est quoi l'ul hot? C'est des espèces de. Des fils pour attacher de trelet al sfat hayriya sur le bord de l'hayriya haïchat, un côté. Mikatsa à la. Extrémité, Bachova, Aret, Vechentase, Bisfat, Aira, Kitsona, Marbre, Tachinit. Donc on a ici 5 tapis, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et maintenant ici, il y a des.
Des fils qui viennent les relier entre eux.
Il y a Karsé Zahav, Karsé, il y a ici des anneaux en or, 50 anneaux en or, 50 anneaux en or. Après, il y a un fil qui les attache. Donc tous les 10 sont attachés. 50 fils. Taase. Lulaot, c'est plus qu'un fil, c'est une.
Une corde, un cordage.
Oui. Taase, tu fabriques un erechat, oui. Vechamishim lulaot, et 50 lulaot. Taase. Ah non. Lulaot, ça veut dire c'est comme une corde, comme ça, 50 cordes. Et après, il y a les krasim qui les attachent, des crochets. Donc ici, une corde. Donc cette corde, elle est faite de trelettes. Voici ta chamishim kar sezav. Maintenant, tu fais 50 crochets en or. Vechibarte ta iriot. Tu vas attacher les iriot. Isha lachata, une femme vers sa sœur. Bakerasin avec les crochets. Vaya mishkan echad. Après le mishkan, c'est un. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Il y a beaucoup, beaucoup d'allusions. Qu'est-ce que ça représente? C'est le ciel, les crochets, c'est les étoiles, c'est la voûte céleste. Il y a beaucoup des allusions. La tête de l'homme, le ciel et la terre qui sont accrochés. Vahaya Mishkan Echad, après le Mishkan, donc c'est ce couvercle devient un. Vasita, après tu fais une deuxième couverture. Yeriot Izim, ça c'est un tapis de poils de chèvre, tissé par des poils de chèvre. Le Ohel, c'est une couverture Al Hamishkan sur la première couverture. Mais ça c'est pas visible de l'intérieur. Visible à l'intérieur, c'est ce qui était fait de lin et de laine. Et là-bas, il y a des chérubins tissés dedans.
C'est décoré, quoi. C'est-à-dire que c'était riche, quoi. C'était richement décoré.
Achetei esrei iriot. 11 iriot taseotam. Le deuxième, c'est 11. Orecha iria achat la longueur, shloshim bama, c'est 30. La première, c'était 28. La deuxième, c'est 30. Verochav la largeur, arba ba'ama, 4. Hayria echat. Un tapis, mida achat l'achetei esrei iriot. Alors, donc, si tu as... Si tu as 11 fois 4, ça fait 44. Et la longueur, 30. Donc, il y a 10, 10, 10. Donc, ça va couvrir jusqu'en bas, le deuxième tapis. Et ici, il y a 30. Et 10, ça fait 4. Mais il reste 4 en plus. Donc, ça descend un peu plus sur la couverture. Sur l'ouverture du Mishkan, côté ouverture du Mishkan. Vechibarta, tu vas attacher Tchamesh Ayrot, la bat 5. Et les 6, parce qu'il y en a 11, 5 et 6. D'abord 5 ensemble cousus, 6 ensemble cousus. Et Chafalt est aïré à Chichit, la 6e, Chafalt va être pliée. El Moul Pnei HaMenorah, devant la face du Ohel. El Moul Pnei HaOhel. Moul en face de l'entrée de la tente. Donc, ça c'est la Mishkan, donc c'est une maison. Ici, c'est l'ouverture. Ici, il y a du bois, du bois, du bois. Donc, le premier tapis comme ça. Il y a 10 tapis. Ça couvre 30 et 10 amotes. Mais là, une amote n'est pas couverte. Et le deuxième tapis, il est 30 jusqu'en bas. Ouais. Il y a 44. Donc, ça, c'est 10. Et ici, ça couvre un peu jusqu'à ici.
Devant l'entrée.
C'est quand on a un manteau, il descend un peu. Ici, ça descend. Et ça, kafalta, ça descend un peu. On rentre ici dans l'Ohel. Ça, c'est le deuxième. Va asita chamishim lulaot. Maintenant, tu fabriques de nouveau 50 lulaot. Qu'est-ce que ça représente, les 50? Le chiffre 50 représente quoi? 50, c'est les 50 jours entre Pessah et Shavuot. Et 50, c'est le Yovel, l'année de Yovel. Il existe le phénomène des 50. Voici ta chamishim lulaot, asvat ayriya haechat, sur un bord. Donc ici il y a 5, ici il y a 6. Et si on fait 50 lulaot, comme ça des cordelettes, et 50 cordelettes, et après un crochet. Mais ce crochet, il n'est pas fait en or. Ce crochet, chamishim lulaot asvat ayriya haechat, akitzona bachaval, chamishim lulaot asvat ayriya haechat hashenit. Voici tu fabriques c'est un crochet, des crochets, des cuivres, chamishim 50. Tu fais rentrer les crochets dans les cordelettes. Tu vas donc attacher le Ohel. Vaya, ça devient un. Et le surplus ici, dans le tapis du Ohel. Ohel, ça veut dire ça, c'est deux qui est de chèvre. La moitié, ça veut dire deux amot, tisrach. Elle va déborder. Alors, Chorea Mishkan, derrière. Donc, tu as ici 2, 30, 10 et 2. C'est comme une kala, comme une fiancée.
Une traîne, c'est comme une traîne.
Traîne d'une fiancée. Donc, le Ohel, c'est une kala, c'est la fiancée. Ça traîne un peu. Et si ça couvre comme une kala, on met
un voile
ici. Donc, ça, c'est la femme. Isha El Achota, Keveyachol, la femme, et Akadejro, Keveyachol, il va habiter dedans. Alors, c'est le secret de Kadesh Baruch Hu, il se marie avec le peuple juif. Et beaucoup la Shrina, il descend sur terre pour habiter dans cette Ohel. comme si Kaveh Yachol HaKadosh Baruch Hu, c'est le Hatan, toujours le prophète, et ça c'est la Kala, il se marie dedans. Alors, et ça c'est le mariage entre le ciel et la terre, entre Hachem et le peuple juif. Et c'est la Chaudef, mais notre Oeh Hatsi Haïriya, David et ça. Donc, il y a une ama ici, une ama ici, dans le surplus. C'est-à-dire, on avait dit 30. Donc, le premier était 28. Donc, 9, 10, 9. Mais lui, il a 30. Donc, 10, 10, 10. Donc, ceux qui restent en plus, la ama ici, odef, qui est en plus dans la longueur, pour couvrir la dernière ama ici. Maintenant, on fait une troisième couverture sur le ohel. Le premier s'appelle Mishkan en laine. Le deuxième s'appelle Ohel. Ça s'est fait en chèvre. Maintenant, il y a un troisième, un Mirsé, une couverture pour Ohel, Orot avec la peau, Eilim, des béliers, mais Odamim qui sont rouges. Ou Mirsé, une couverture, Orot de peau, Tchashim Ilmala. Ah, s'il y a deux, Merchloke dans la Gemara, est-ce que la moitié était peau de Tachash et la moitié de bélier? Tachash, c'est un animal très spécial qui était que pour cette époque, Tachash. Et il y avait là-bas un animal spécial, Tachash, on n'en a pas aujourd'hui. Alors, soit la moitié était Tachash, la moitié était bélier cousu, soit il y avait un troisième qui était bélier, un quatrième qui était de Tachash Milmala, qui est en haut. Protégé donc par quatre couvertures, d'après un avis.
Pourquoi quatre? Deux, ça aurait suffi. À la limite, on peut comprendre qu'il fallait une extérieure.
Pour
la protéger l'extérieur et une à l'intérieur pour décorer. Pourquoi une troisième?
Et la tête de l'homme, il a combien? Le cerveau, il a combien des protections? Le cerveau.
Il y a le crâne, la peau.
Attends. D'abord, il y a le ménage.
Ouais, le ménage, il y a
le cerveau, il a le ménage.
Il y a la liquide. Il y a
liquide rachidien.
Il y a le crâne.
Après, il y a le crâne.
Après,
il y a la peau. Et après, il y a les cheveux.
Enfin, ensuite, pas tout le monde, hein, les cheveux.
Quoi?
Pas tout le monde, les cheveux.
Mais le point, que les gens ils perdent leurs cheveux, ça c'est un défaut. Les cheveux, c'est chauffe, ça protège du soleil, ça protège du froid, ça protège de l'intempérie. Les cheveux, c'est une protection, les cheveux. Et alors, il y a les cheveux, il y a la peau, ça fait 2, il y a le crâne, ça fait 3, il y a le ménage, ça fait 4. Alors ici, le plus beau, c'est le plus que ce qu'on voit à l'intérieur, c'est le ménage, c'est le plus délicat, les ménages, c'est très délicat, il ne faut pas qu'il y ait moindre chose dans les ménages. Infection méningite, c'est très grave. Après, il y a la deuxième, c'est des chèvres. C'est quoi ça, les chèvres? Ça, c'est le crâne. Après, il y a la peau de Eilim Odamim, et peut-être Tachash, c'est les cheveux. Il faut le cerveau d'être protégé. Les choses chères doivent être protégées. Les plus beaux, c'est ce qui est du plus bas, parce que c'était visible à l'intérieur. Chaque couverture, elle a son utilité, évidemment. L'homme aussi, chaque chose, elle a son utilité. Il n'y a rien